Amis auditeurs, bonjour et merci infiniment d'avoir choisi cette émission table ronde. Merci infiniment pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Amis auditeurs, si vous avez suivi ces derniers jours l'actualité, vous vous en êtes rendu compte que en Iran, les Iraniens s'apprêtent à célébrer l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979. Il s'agit en fait du 40e anniversaire de la victoire de la révolution de 1979. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission Table Ronde depuis Toulouse un spécialiste des questions internationales, un spécialiste des questions relatives au Moyen-Orient et également un très bon connaisseur de l'Iran et des questions relatives à l'Iran. Il s'agit de M. Pierre Dortiguet. M. Dortiguet, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Nerostine, un grand remerciement pour vos paroles qui sont très affectueuses, je vous remercie. Et donc je suis très heureux de pouvoir répondre justement aux questions que peuvent se poser des auditeurs sur le sens, la signification de cet événement qui naturellement pèse beaucoup, enfin disons, est d'un grand secours aujourd'hui pour tous les peuples.
Et commençons, M. Dortiguet, notre émission par ce que vous venez en fait de lancer, c'est-à-dire le sens de cet événement. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît?
Oui, en effet, le sens de cet événement, c'est, disons, une sorte de proclamation de l'énergie d'une nation, d'un grand ensemble, d'une nation qui avait les traits d'un empire, hein, bien sûr. Ceci a une importance aujourd'hui. Lorsque la révolution, disons, s'est produite en Iran, il était d'usage en Europe de répéter dans certains milieux de jeunesse une formule que les Chinois à l'époque avaient popularisée, à savoir qu'il fallait compter sur ses propres forces. C'est-à-dire ce que nous apprenions, nous, en philosophie, à savoir qu'il fallait avoir une autonomie, c'est-à-dire être responsable de ses actes, être surtout courageux une fois qu'une décision a été prise. Et le sens de cette révolution n'a pas été simplement une proclamation de l'indépendance de l'Iran par rapport à ce qu'étaient à l'époque les deux grands courants, qui étaient quand même plutôt plus ou moins liés, mais qui s'opposaient, mais en réalité étaient les fruits, disons, d'une alliance ancienne, à savoir l'Est communiste et l'Occident, qui était sous la coupe américaine, la coupe anglaise, enfin la coupe qu'on pouvait dire impérialiste ou capitaliste. Il y avait un impérialisme, si je puis dire, de l'Est, un impérialisme de l'Ouest. Ces deux impérialismes, il faut que nos jeunes auditeurs surtout le sachent, se sont alliés en 1941 avec Churchill et Staline pour pouvoir justement diminuer, anéantir l'indépendance de l'Iran. Et l'Iran a été projeté dans cette guerre comme il avait été projeté dans la Première Guerre mondiale, alors que dans les deux fois, il avait proclamé, disons, son indépendance, c'est-à-dire sa neutralité. C'était donc une violation de la neutralité. Bien sûr, indépendamment des questions de régime, de personnes, de royauté, de république, qui ont bien sûr leur valeur, il y avait ce sentiment iranien que l'Iran ne pouvait pas compter simplement sur une alliance, c'est-à-dire mettre ses intérêts, son avenir entre les mains de personnes autres que sa propre civilisation. C'est-à-dire à savoir que l'homme est responsable de lui-même, une nation doit se connaître, elle est responsable de ses actes, et il faut qu'elle enseigne à sa jeunesse. Et c'est justement pourquoi il y a eu, disons, toutes opinions mêlées, une sorte de rassemblement autour de la personne de l'imam Khomeini. L'imam Khomeini a pu sortir l'Iran de ce chaos d'influence. Il y avait des gens qui étaient de tous les bords, des gens de valeur, bien sûr, mais les gens de valeur ont besoin, si je puis dire, d'un axe. Ils ont besoin, disons, non pas seulement d'un drapeau, mais d'une direction, d'une foi, non seulement religieuse, personnelle, communautaire, mais aussi d'une foi patriotique. On ne peut pas imaginer qu'on est un homme religieux et moral si on ne rend pas hommage à ses parents, à sa patrie, à ses ancêtres. Eh bien, c'est ce que l'Iran a fait et a maintenu. Ce qui permet aujourd'hui de résister à ce blocus, par exemple infâme, qui touche tous les aspects de la vie iranienne. C'est justement cette confiance en soi. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas seulement une certitude d'exister, c'est une nécessité d'exister. On ne peut pas, disons, marcher dans l'existence en ayant, disons, des sentiments, des pulsions contradictoires, des passions, disons, superficielles. Voyez-vous, il ne s'agit pas simplement de manifester comme nous faisons avec nos gilets jaunes, par exemple. Il faut aussi approfondir, savoir quel est le devoir, un devoir personnel mêlé, lié, indissociablement à un devoir national. C'est ce qui a permis à l'Iran de passer à travers la guerre qui lui a été imposée. Le terme est utilisé en Iran, la guerre imposée par l'Irak. Derrière l'Irak, vous aviez l'Ouest et l'Est, vous aviez les forces communistes, vous aviez les forces, disons, anglaises, vous avez tout cela qui poussait l'Irak à anéantir la nouvelle révolution et en même temps chercher aussi à l'affaiblir. C'est ce qui s'est produit, voyez-vous. Donc, de ce point de vue, disons, contre ces intrigues, eh bien, il fallait opposer une réalité durable. Cette réalité durable, c'est une révolution. Je terminerai là-dessus. Que signifie une révolution? Je me permets de parler comme un ancien professeur de philosophie. C'est le mot de revolvere en latin, c'est-à-dire qui a donné le mot de revolver. C'est ce qui tourne autour d'un axe. Eh bien, l'Iran est retourné autour de son propre axe. C'est pour ça que, disons, il se maintient. C'est le secret, nous appelons cela le courage, mais c'est sa base. C'est ce qui lui permet, en temps de blocus par exemple, de continuer son progrès technique, voyez-vous, de rassembler une jeunesse autour d'elle qui est très nombreuse, qui est maintenant la majorité de la population en Iran, contrairement à nos populations vieillissantes. L'Iran est menacé, mais l'Iran est craint aussi. Et ce qu'on craint, ce ne sont pas ses canons. Ce ne sont pas seulement ces avions, c'est également, surtout, voyez-vous, cet esprit intrépide, cet esprit, disons, d'intransigeance quant à la nature de sa propre vie, de sa propre vie iranienne. De Gaulle parlait d'une Europe européenne, par exemple. Il disait qu'il fallait que la France soit française, l'Europe européenne. L'Iran veut être iranien. Et ça, disons, cette valeur d'existence, eh bien, elle est un exemple pour les autres peuples. Pourquoi l'Iran est-il l'objet d'autant de calomnies de part et d'autre? C'est parce qu'il défend un principe, voyez-vous. Et c'est donc ce principe qu'il faut que nos auditeurs, surtout nos jeunes auditeurs, ceux qui viennent après nous, eh bien, méditent, voyez-vous. Autrement, nous allons à volo, c'est-à-dire que nous enfonçons dans la jalousie, les illusions, voyez-vous. Et comme beaucoup de mariages d'aujourd'hui, cela conduit à des divorces, voyez-vous. Non, l'Iran s'est marié avec un principe, il maintient ce principe, voyez-vous, et en cela, il est conforme, il faut le dire aussi, aux devoirs religieux.
Monsieur de Dorsigui, en fait, vous venez de parler tout à l'heure de l'impérialisme, vous venez de parler du bloc de l'Est et de l'Ouest, qui, en fait, s'était quand même acharné contre l'Iran. Vous venez de parler également d'un point très, très intéressant, en disant que voilà, l'art de l'imam Khomeini, c'était en fait de sortir l'Iran de ce chaos d'influence. Vous avez fait allusion en fait à cette influence exercée par les deux blocs de l'Est et de l'Ouest contre l'Iran avant la victoire de la révolution islamique d'Iran. Et vous venez de parler également de ce principe auquel est attaché l'Iran et l'Iranien. Et vous venez de parler de ce modèle iranien. Vous avez dit que l'Iran veut être en fait iranien. Et est-ce que c'est pour ces mêmes raisons, M. Dorsigui, qu'on assiste en fait toujours à ce 40e anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979, à ces pressions exercées, à ces menaces exercées par certaines puissances contre l'Iran, à ces pressions exercées, à ces menaces formulées contre l'Iran, M. Dorsigui?
Oui, en effet. C'est là la véritable raison. Ce n'est pas une raison économique, ce n'est pas une raison, disons, de concurrence que peut faire l'Iran aux intérêts des uns et des autres. Mais vous avez repris en effet ce que nous disions sur sont permis de dire, sur ces doubles influences qui étaient de l'Est et de l'Ouest contre l'Iran. Il s'agissait en fait, selon la formule d'un camarade vietnamien de l'époque qui était avec moi, d'un serpent à deux têtes, il décrivait ainsi. Et c'est une réalité qui est très juste. Ce serpent à deux têtes, il a un corps, voyez-vous. Le corps, il est unique. Et ce corps qui est unique, c'est celui simplement d'enfoncer le monde dans le matérialisme, et pas simplement le matérialisme, mais disons la confusion des intérêts. Nous vivons dans une situation aujourd'hui où les familles, les générations se heurtent les unes aux autres, voyez-vous, où on accentue l'opposition entre ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'ont pas désir être riches, ceux qui sont riches veulent opprimer les pauvres. Ce sont des combats, bien sûr, violents, mais à courte vue, et qui finissent par détruire la santé physique et morale de toutes les populations. J'ai interrogé des Iraniens, par exemple, sur leur voyage à l'Est, par exemple, dans l'ancienne Russie, dans la Grande Russie. Ils disent, nous avons des jeunes gens, et nous rencontrons des jeunes gens là-bas, qui rêvent de partir aux États-Unis. Bon. D'autres qui ne voient que le monde qu'à travers des images, si vous voulez. Et ça, c'est une sorte d'hypnose, voyez-vous, dans lequel on se maintient. Vous avez des discours contradictoires. Tantôt, les capitalistes de l'Ouest, de l'Est, se présentent comme des gens défendant la tradition, l'humanisme. Ceux qui sont inspirés par les communistes veulent fonder la nouvelle richesse sur le pillage des anciens. C'est-à-dire, finalement, contre d'anciens criminels, en gré de nouveaux. Tout ceci, voyez-vous, avait fatigué l'Europe, avait fatigué le monde. Il faut voir quand même ce qu'a fait, quand même. Je vais donner deux exemples très simples. Prenons l'exemple des États-Unis. Quel est le pays au monde, depuis sa création, qui a fait autant de guerres, plus de 200 déclarations de guerre, à des petits pays, bien sûr, le plus souvent, que les États-Unis? Nous avons, quel est le pays, disons, dans lequel, mon Dieu, il y a eu le plus de massacres de religieux, par exemple, de gens simples, de paysans, qui simplement n'avaient comme crime que de pouvoir vouloir adorer Dieu, disons, que la Russie soviétique, la Russie communiste. Ces gens-là, bien sûr, s'alliaient les uns aux autres. J'ai donné l'exemple de Churchill et de Staline qui sont rentrés avec une déclaration de guerre portée à 4h du matin contre un pays indépendant. Contre un pays qui avait déclaré sa neutralité. Même malheureusement, le Shah d'Iran qui était déjà en poste, voyez-vous, après le départ de son père, était un homme faible. Or, pour un homme faible, et ça, la faiblesse dans ce monde matériel, matérialiste, est une faute, est un crime contre son propre peuple. Il ne faut pas juger les gens simplement par leur caractère. Il faut les juger d'après la responsabilité politique qu'ils ont. Et de ce point de vue, l'Iran, quelles que soient évidemment les vicissitudes du jour, s'est placé à un niveau supérieur à celui de nombreuses autres nations, voyez-vous. J'ai visité moi-même la Chine en 1966. J'ai vu des gens qui étaient avec les gens de la Sorbonne, à ce moment-là. Nous sommes arrivés une semaine avant la révolution culturelle. Bien. Nous avons vu des gens qui criaient à droite et à gauche ceci. Qu'est-ce qui s'est passé des années après? Ces mêmes personnes qui criaient sont devenues des gens qui, bien sûr, ont leur valeur, ont leur qualité, mais, disons, ont un point de vue qui, à mon avis, de philosophe, est essentiellement quand même trop matériel, trop matérialiste. Et de ce point de vue, il faut dire que l'influence du communisme, c'est-à-dire ravage entièrement les esprits, la morale et la culture. L'Iran a échappé à cette tentation. J'ai connu moi-même à Paris des gens du parti Toudeh, par exemple, qui étaient communistes. Ils se rendent compte maintenant, bien sûr, de l'erreur qu'ils ont faite autrefois. Je les vois très âgés. Maintenant, ils disent, nous avons reconnu, évidemment, ils me disent-ils que nous nous sommes trompés et que, bien sûr, il faut, disons que dans tout, qu'un homme a une base. Cette base, c'est la patrie. Nous sommes limités par notre patrie, mais ça, c'est un commandement divin. Nous sommes chacun limités à notre propre tâche, à notre propre devoir. Et je le dis, non pas seulement en considération du passé, mais également des épreuves qui nous attendent, car les épreuves sont très grandes. Le matérialisme qui se déclenche, qui est déchaîné sur le monde, ne va pas apporter la paix. Il va apporter la guerre. Il va apporter sous toutes ses formes. Et on essaiera de faire des guerres civiles, des guerres intestines, etc. Il faut donc, disons, que les générations soient préparées à cela. L'idée, non seulement l'Iran prépare ses propres hommes, mais il donne un modèle, une consolation aux musulmans d'abord en premier, qui sont aujourd'hui extrêmement décriés, caricaturés. Il faut voir comment on traite cette religion qui a été exaltée, par exemple en Allemagne, par des gens comme Goethe, par exemple, voyez-vous, ou des gens comme Victor Hugo ou Lamartine. Non, je dois dire que l'Iran défend des valeurs que je dirais qui le dépassent lui-même. Et c'est cela, je conclurai là-dessus, qui fait que nous avons un attachement. Ce n'est pas seulement une admiration, mais un attachement dans beaucoup de, chez beaucoup de gens qui n'osent pas me l'exprimer ouvertement, mais me le disent. Nous avons un respect, une affection pour ce pays que nous, dont nous apprenions l'histoire. Quand on apprenait le grec, par exemple, on lisait en grec l'histoire du grand Cyrus, etc. Qui disait lui-même que, alors que les Grecs apprenaient les lettres, nous, on apprend la morale. Eh bien, ça, c'est une idée qui est restée iranienne. C'est-à-dire que...
Alors, vous voulez dire, M. Dortiguier, excusez-moi de vous couper la parole, vous voulez dire qu'en ce 40e anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979, l'Iran continue d'être une source d'inspiration.
Oui, en effet, c'est une source d'inspiration que l'on découvre très bien lorsqu'on mène une conversation avec beaucoup de personnes, disons, sensées. Les gens considèrent l'Iran non pas simplement comme il est aujourd'hui, mais comme il a été à travers les vicissitudes qu'il a traversées. La durée de la révolution parle en faveur de cette révolution. C'est une révolution essentiellement spirituelle. Même des gens comme M. Foucault, on peut penser ce qu'on veut, j'ai connu Foucault, qui était mon examinateur à l'école normale. Bon, bien sûr, il avait parlé de cette révolution spirituelle. C'est un homme qui venait d'une famille conservatrice, hein, beaucoup en France, de médecins de Poitiers. Eh bien, il avait senti cela. Et on en a voulu, d'ailleurs, beaucoup. Il a été mis à l'écart, malgré sa position au Collège de France. Il a été, disons, il est tombé victime, disons, de cette réflexion tout à fait naturelle. Mais ce mot de révolution spirituelle est exact. Et je dois dire que cela touche non seulement les musulmans, mais cela touche des personnes vraiment de notre société, de la société chrétienne ici. Et je l'ai vu dans ma propre famille, par exemple. Je citerai un dernier exemple, ma grande sœur, par exemple, qui était musicienne, qui avait beaucoup de talent. Elle avait été très, très touchée à écouter le Sahar, la radio, de voir ce que signifiait justement ce trésor, de pas seulement culturel, mais ce trésor spirituel. Et je dois dire qu'un dernier mot pour l'islam aujourd'hui, qui est vraiment vilipendé d'une manière que l'on ne peut pas imaginer ailleurs qu'en Europe, eh bien je dois dire que l'Iran a éclairé par l'islam sa propre culture. Et je dois dire que j'espère qu'il saura éclairer également la nôtre avec, disons, ce phare que depuis l'Antiquité, quand même, il balaye le monde. Et ça, je dois dire que c'est cette dernière image que je voudrais que nos auditeurs et surtout nos amis iraniens qui sont en Iran et à l'étranger gardent, c'est-à-dire celle de l'Iran comme d'un phare.
Alors, vous voulez dire qu'en fait, vous conseillez aux Iraniens de poursuivre toujours ce chemin, d'être fidèles toujours à ce principe.
Et d'éviter, disons, d'aller à l'étranger. Je connais beaucoup d'Iraniens à l'étranger. Je l'ai rencontré au Canada, par exemple. Il faut, vous savez, nous avons un grand poète en Allemagne, enfin en Europe, Hölderlin. Il disait que lorsqu'il allait à l'étranger, cela développait la nostalgie de son pays. C'est une grande idée romantique allemande qu'on doit fuir à l'étranger pour pouvoir ressusciter l'appel de sa propre patrie. Bien, eh bien, je crois que c'est ce que j'ai découvert, en effet, de plus en plus chez des Iraniens. Et je dois dire que je les encourage, voyez-vous, à ne pas perdre le souvenir de leur foyer, voyez-vous, lorsqu'ils sont à l'étranger, et donc, disons, d'apprendre, de montrer l'exemple de ce qu'ils sont. Les gens regardent avec un très grand intérêt les Iraniens ici, parce qu'on ne les connaît plus. Depuis de très nombreuses années, vous savez, beaucoup de gens n'ont aucune idée, aucune image réelle de l'Iran. Ils sont très étonnés quand je leur dis ce que je vois, du côté de Kermanshah, que je vois partout, et à Isfahan, tout ça. Certains viennent, beaucoup d'Allemands en particulier, dans le centre de l'Europe, vont en Iran et rapportent des souvenirs. J'en ai rencontré quand j'étais à Vienne et ils m'ont dit, nous étions très surpris de voir un pays dont nous n'avions aucune image, voyez-vous. Et je crois qu'il faut que les Iraniens non seulement connaissent le monde, mais également se fassent connaître. Voilà exactement ce que je pourrais donner comme conseil. C'est plus qu'un conseil, c'est un appel. Ils ont un trésor en eux. Et bien c'est au jugement dernier, on leur demandera qu'est-ce que vous avez fait de ce trésor que l'on vous a confié.
Pierre Dorsier, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir, M. Narostine.
Merci.
Au revoir. Bonne journée.
Au revoir.
Narostine.
Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
C'est la fin de l'émission Table Ronde d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission et pour parler d'un autre sujet marquant l'actualité internationale.